My name is Michel Perrault. I'm a researcher here at the Douglas. Je vais aller en français. Mais mon nom est Michel Perrault. Je suis un chercheur ici au Douglas. Je travaille, je suis aussi affilié à l'Université McGill. Je travaille surtout en évaluation des programmes en toxicomanie et en psychiatrie. Oui?
Peut-être ça sauve du temps, si vous voulez. Les présentations, peut-être on comprend les lits pour que son personnalité, peut-être parler anglais simplement à la place, peut-être traduire, peut-être ça perd le temps pour vous.
OK. Chez les personnes francophones, il y en a combien qui comprennent...
Des personnes francophones,
les personnes ici qui sont dans l'auditoire, il y en a combien qui... Combien de personnes ne comprennent pas l'anglais?
C'est pas mon idée. Les conférences données en français, c'est sûr, mais votre présentation, votre travail.
Qui vous êtes?
Vraiment que anglais. Qui vous êtes? Peut-être que l'anglais, c'est sûr.
Ça va être un long symposium. My name is Michel Perrault, and I'm a researcher here at the Douglas and associate professor at McGill in psychiatry. I'm also affiliated with the University of Quebec in psychology. I'll be acting as the moderator for this session, and it's mainly a session based on the research application on the web, and we'll discuss about research questions. So while we had just the presentation we had in the main room was mainly about applications on the treatment aspect of the web. So we are three. I'll be presenting first because I'm the moderator and I'd like to take too much time. If there's some time left, there will be Mariko Chartier-Otis, will be the second one, and we'll be present some of the applications of our research findings. And then we'll have Dr. I want to make sure, and my accent is probably as worse in English as in French to pronounce your name, Dr. Chao Cheng Lin. Yeah. From Taiwan, who will be presenting his results from his research on the web. So we have until noon to go through the three presentations. What I suggest is to make sure we have enough time, I'll present my... I'll try to go fast with my presentation. It will be more sort of technical to leave time to Mariko. And if there are questions, we'll probably take them after Mariko's presentation, just to make sure that we have all the time requested for your presentation at the end. Okay? Alors maintenant, je commence. Now. Okay, alors, là, faut que tu me dises, Mariko, si... Je vais essayer d'aller assez rapidement. Est-ce que ça va pour la postérité? Tout est enregistré, alors... Alors, ici, ce qu'on présente, c'est une évaluation d'une consultation en ligne portant sur les troubles anxieux. Et quelle est l'origine de cette magnifique recherche? C'est basé sur une étude antérieure que nous avons menée entre 1998 et 2004, où nous avons mené 17 groupes de traitements cognitivo-comportemental pour le trouble panique avec agoraphobie. Les groupes avaient lieu au Douglas et à Louis H. Lafontaine, et c'était des candidats qui étaient référés par les cliniques ou qui étaient recrutés par des annonces ou de différentes annonces dans les cliniques, à l'université, un peu partout. Alors, on a mené ces groupes-là, et je vais vous amener rapidement sur la procédure. En fait, un des objectifs de l'étude était d'examiner les attentes des participants, le rôle des attentes sur les résultats de traitement. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Je vous amène directement dans le cœur de la question, c'est... Je peux vous dire que... au niveau de la préévaluation pour nos groupes de traitement, quand on acceptait 206 patients, il y en a 73 qui se présentaient, qui sont présentés, 71 qui ne se sont pas présentés. Au niveau de la préévaluation et de l'évaluation clinique. sur 206. Le début du traitement,
quand on acceptait 139, les 139 acceptés, 121 sont présentés, 18 ne sont pas présentés.
Par la suite, en traitement, puis nous, l'objectif de notre étude était d'examiner, d'améliorer la rétention en traitement. On s'est rendu compte que pour ceux qui débutaient vraiment le traitement, on avait 116 qui poursuivaient, puis on avait 5 qui abandonnaient dans les 4 premières semaines.
Désolé.
OK. Ah, je suis désolé. Alors, je vais recommencer au complet. Alors. Ah non, c'est beau. Alors, conclusion de ces magnifiques diapos, c'est pas nécessairement sur la rétention en traitement qu'il faut travailler, c'est sur l'arrivée en traitement qu'il faut faire un effort. Et il fallait comprendre qu'est-ce qui fait que les gens ne se présentent pas au début du traitement. On a fait une étude qualitative, j'ai fait des rencontres avec les gens, je me suis rendu compte. On travaille avec trop de panique, avec agoraphobie. I'll try to summarize that in one sentence, you see. Trop de panique avec agoraphobie, anxiété sociale et... agoraphobie, je vois David qui fait des propos. Mais qu'est-ce que je conclue? C'est que comme psychologue, après plusieurs années, je n'avais pas compris que ces gens-là, même si on offre les traitements dans une clinique externe, même si c'est cognitivo-comportemental, même si on est dans les meilleures pratiques, c'est pas facile pour eux de se déplacer, de venir sur place, de monter un petit escalier fermé, de fermer la porte, de voir des gens qu'ils connaissent pas. Puis pour en rajouter, on avait un chercheur qu'ils connaissaient pas, qui leur présentait tout ce qui était pour se produire au cours du traitement, incluant les sessions d'exposition. Vous avez peur de prendre le métro, on va y aller. Alors les gens étaient terrorisés et j'ai contribué comme terroriste, c'est ma contribution au terrorisme international, à terroriser nos patients. Alors, qu'est-ce que, pour corriger ces erreurs de jeunesse, qu'est-ce qu'il faut faire? On s'est dit qu'il faudrait peut-être aller consulter les gens qui ont des troubles d'agoraphobie, anxiété sociale, pour savoir, eux, qu'est-ce qu'ils considèrent comme obstacle au traitement. Comment le faire? OK, j'ai juste une phrase. What I was saying is that in previous studies, we offered treatment to more than 10 groups, CBT treatment, and we found that many of these people did not show to the first treatment session. And we're trying to, with this web study, find out about the obstacles to treatment, the barriers to treatment, and we did that study to identify that. En fait, ça va aller plus vite si vous écoutez seulement le résumé. Alors, en anglais, c'est toujours plus court. Alors, les indicateurs. On a démarré cette étude-là et c'est sous la suggestion d'un groupe de soutien qui est Phobie Zéro, qui est associé à cette étude-là, qui nous a dit, si vous voulez rejoindre ces gens-là, vous avez plein de troubles pour les recruter, tout ça, allez sur le web. J'étais très perplexe, puis c'est un peu naïf, là, je vous présente, nous, ce qu'on a constaté avec notre étude web. J'y croyais plus ou moins, on était sur le web et on était assez étonnés des résultats de participation des gens sur le questionnaire. Alors, la brève présentation que je fais ici, c'est seulement pour vous indiquer un peu comment ça s'est... Qu'est-ce qu'on a pu aller chercher, qui on a rejoint, qu'est-ce qu'on a obtenu en allant consulter sur le web. Alors, quelques chiffres rapides. L'Internet, toute pénétration au Québec... Là, il y a plusieurs chiffres. Il y a plusieurs chiffres qu'on peut utiliser. Mais on sait qu'il y a une grande pénétration maintenant. Alors, je vais aller directement. On dit ici que on était à 67% taux de pénétration du web, 68% au Canada. 85%. Au Québec, on est un petit peu plus bas. Là, on a plein de chiffres, puis on ne savait plus lequel choisir. Puis ça dépend de si on regarde si c'est installé à la maison, s'il l'utilise. Mais on sait qu'il y a un haut niveau de pénétration maintenant et que ça l'a beaucoup évalué au cours des dernières années. Alors là, nous, notre question, ma question, on va sur le web. Qui est-ce qu'on rejoint? Est-ce qu'on a un groupe qui est représentatif ou est-ce que c'est strictement un groupe qui est biaisé, qui est un petit groupe d'initiés? Alors, I'm talking about the representativity of our sample, and these are some figures that are showing that we have a high penetration rate of web utilization in Québec. Alors, on essaie de voir si on rejoint effectivement les gens qu'on veut rejoindre. Population québécoise souffrant de troubles anxieux. Là, tantôt, je crois, on a eu une excellente présentation juste avant moi. Je ne vais pas répéter les renseignements. Mais nos données au Québec, au Canada, ressemblent à ce qu'on observe généralement en termes de prévalence. Alors, on sait qu'on a environ 11% des Québécois qui ont un trouble de panique, agoraphobie ou phobie sociale au cours de leur vie. Alors, je vous attire sur le petit bout en rouge, 13% des femmes et 9% des hommes. Puis on va regarder dans notre échantillon si on arrive à peu près dans ces proportions-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait comme questionnaire? On a couvert les obstacles au traitement pour les troubles anxieux, symptômes, expérience de consultation, intérêt à obtenir de l'aide de pairs aidants, parce que on se disait, si on est assez brillant, puis on est capable d'identifier les obstacles, puis qu'on se rend compte que nous, les cliniciens, les chercheurs, les gens qui organisent les services, on n'est pas très bon pour identifier les obstacles, peut-être que des gens qui ont déjà eu le traitement, puis qui sont rétablis, ils seraient meilleurs que nous, puis on pourrait peut-être les associer pour faire de l'accompagnement en traitement. Là, je ne vais pas brûler la présentation de Mariko, mais elle-même a fait une formation pour les pères aidants, ce qu'elle va vous en parler tantôt. Alors, deux versions de questionnaires. On s'est dit, on va tester la machine, on met des longs questionnaires très compliqués, puis on va voir s'ils sont capables de répondre jusqu'au bout. Alors, on avait 170 questions troubles anxieux, 119 questions pour les gens qui sont des proches, qui ne répondent pas pour eux, mais pour une autre personne, qui c'était possible aussi. Alors, le questionnaire a été administré entre le 1er avril et le 15 novembre 2008. Parce que 2009, on n'est pas rendu. Nous, on est tellement efficaces qu'on vous présente déjà les résultats. Alors, questionnaire pour personnes atteintes. Là, je vais gagner un petit peu de temps là-dessus. Procédure de recrutement. Là, c'était, parce que c'est la clé. On veut que les gens répondent, mais comment on fait pour les rejoindre? Alors, I was saying that we have a very long questionnaire, and it was also designed for relatives. And I'm talking about how we proceeded to recruit our participants. Alors, les organismes de soutien, Phobie Zéro, Revive, La Clé des Champs, l'Association canadienne de santé mentale, des hôpitaux psychiatriques, le Douglas, Louis H. Lafontaine, Centre de recherche Fernand Séguin, à l'UQAM, il y avait... Et là, on a utilisé les sites web. Il y avait, je crois, l'ATAC aussi qui a mis les sites web, des petits dépliants, les babillards. Il manquait juste le petit avion avec la banderole qui passe au-dessus de la ville. Mais on a vraiment fait un effort pour aller rejoindre les gens où ils étaient. Et ces gens-là ont tous accepté de mettre soit un hyperlien, de mettre une annonce, de faire un envoi à la FAPAM, la Fédération des parents amis du malade mental. On fait même un envoi à leurs membres pour qu'on ait aussi des proches qui répondent. Alors, échantillon. Premier résultat, 714 participants. Et ça, c'était, je vous dirais, au-delà de ce qu'on pouvait s'attendre. Nous, l'expérience que moi j'avais, peut-être Mariko avait d'autres attentes, mais moi, c'est les groupes, c'était très difficile de rejoindre les gens, c'était très difficile de les faire venir. Et puis, Phobie Zéro, la proposition, je me disais, ça doit rejoindre un petit nombre de personnes qui sont plutôt des gens très familiers avec l'Internet puis qui vont aller répondre ou utiliser. Mais 714 personnes, dont 653 qui sont elles-mêmes aux prises avec un trouble anxieux, puis 61 qui sont des proches qui ont répondu. Les proches, beaucoup plus difficiles à rejoindre. Alors, je ne veux pas m'éterniser, mais il y a toutes sortes de facteurs. Et le questionnaire était disponible en français et en anglais. Ce sont des gens, les francophones, assez simplement, nos groupes de soutien, il y a beaucoup d'endroits qui sont bilingues, mais on, vraiment, c'est une étude qui était plutôt basée sur des ressources francophones. Alors, we had 713 participants in our study for about 6 months of recruitment. Alors, provenance. Et ça, c'est intéressant. D'où ils viennent, ces gens-là? 48%, c'était par un des groupes de soutien. ils ont vu sur le site l'hyperlien, puis là, ils sont venus vers notre questionnaire. 16% par les médias, 16% par soit notre site ici du Douglas, soit par le Louis H. Lafontaine. Je les ai regroupés. Le Douglas avait un gros impact. Puis là, j'ai mis tous les organismes communautaires ensemble. Mais c'est vraiment, pour nous, la clé, c'était vraiment l'endroit où ils consultent, où c'est plus achalandé pour eux. On a eu la majorité, naturellement, du Québec. On a eu quand même 38 qui venaient de l'extérieur, dont 21 en France. Ce qui serait intéressant, ce serait d'aller les rencontrer pour vérifier vraiment ce qu'ils ont. 41% région urbaine, 24% région rurale. Alors, aussi, donc, une possibilité de rejoindre en dehors de milieu urbain. Participants, est-ce que ce sont juste des jeunes? Bon, on a ici 33% de 25-34, puis si on fait 25 jusqu'à 55, on arrive à quelque chose comme ça, un petit peu plus de 50%. De participants. Donc, on est quand même dans la grosse fourchette, là, c'est 25-55. Si 8% sont âgés de plus de 55 ans, 1% est âgé de plus de 65. Donc, on perd dans les gens plus âgés. 72,7% sont des femmes. Tantôt, c'est ce qui est une surreprésentation. Donc, on a une surreprésentation des femmes, surreprésentation des gens qui sont dans les, je dirais, entre 25-54, si on regarde l'ensemble. Célibataire, ça, on n'a pas vérifié encore. Niveau d'éducation, là aussi, grande déception. 40% ont un niveau universitaire. Et ça, c'est une surreprésentation. On est à 17% au Québec de personnes qui ont un niveau universitaire. Alors, donc, what I'm saying is that we have overrepresented people with university diploma. It's 40% while it's 17% in the population. And we have more women who answer than what we were expecting from people who have anxiety disorders. So it's a bias. On se rend compte, on a une grande participation, la qualité des réponses, les gens ont vraiment répondu avec attention. Attendez, je vais aller directement. Attendez. Non, sinon je vais mêler là, mais les gens ont quand même, il y a très peu de gens qui ont arrêté de répondre en cours de questionnaire, donc ils ont mis beaucoup d'énergie, les commentaires et tout ça. Mais on a un biais de sélection. Et dans toute étude, il y a un biais de sélection. La difficulté pour nous, c'est aussi de voir exactement où il se situe. Si vous faites une étude standard, vous pouvez dire « ma population est là, je procède de telle façon, il y a tant de personnes qui ont refusé de participer à l'étude. Ensuite, dans ceux qui ont participé, il y en a tant qui ont abandonné en cours de questionnaire. » Ici, la difficulté est de voir où on s'est... parmi tous les gens qu'on a rejoints, combien il y en a qui ont effectivement fait la démarche pour venir, combien ont arrêté avant même de répondre. On a des indicateurs, mais personnellement, je ne suis pas très familier encore avec les outils pour faire le suivi. Je sais que nos gens d'informatique vont nous appuyer. Ceux qui sont venus visiter et qui n'ont pas répondu, tout ça, cette partie-là, pour moi, est plus difficile à interpréter. Alors que, parce que quand on examine... puis en fait, ce qu'on voit ici, là, c'est que dans les gens qu'on a rejoints, on en a 1/5 qui a déjà fait partie d'un groupe de soutien, ce qui peut expliquer aussi que leurs sites sont populaires pour être aiguillés vers notre questionnaire. On a 51% qui croient que des pères aidants pourraient être utiles quand ils ont des difficultés, ce qui pour nous est intéressant. Et là, ici, on a examiné ceux qui avaient déjà eu un diagnostic, puis ceux qui n'en avaient pas déjà eu, pour essayer de voir aussi comment ça se présentait. Puis on s'est rendu compte que dans les gens qui avaient des troubles de santé mentale, on avait 485 qui ont eu un trouble diagnostiqué, puis 168 qui avaient un trouble, mais qui n'avaient pas été diagnostiqué. Donc, une tendance à recruter des gens pour que le problème a été diagnostiqué ou il y a eu plus de contact avec les services. Moi, je vais m'arrêter assez rapidement pour laisser le temps à Mariko. Peut-être Il y a une question, il y a un point que je voulais vous montrer. C'est celle-là. La procédure, l'acceptabilité de la procédure. On avait un questionnaire très long. Et là, on peut se demander, est-ce que les gens vont le compléter? Combien il y en a qui abandonnent en cours de traitement? Et on avait prévu des endroits pour que les gens arrêtent de remplir, puis qu'on puisse conserver l'information qui avait été déjà inscrite auparavant. Alors, il y avait 5 endroits dans le questionnaire des personnes atteintes, et on a perdu 61 personnes à ces 5 endroits-là, ce qui est 9% des gens, donc qui ont arrêté de remplir le questionnaire en cours de route, et c'est 8% chez les proches. Those are the people who decided to quit while they were filling in the questionnaire. So we have 9% in the questionnaire that we use for people who have diagnosed or non-diagnosed anxiety disorders, and we have 8% among relatives or people who stop during the question. So, alors, moi, je vous dirais, bon, je m'en vais rapidement sur la conclusion. Alors, ce que ça nous démontre, nous, c'est la capacité du web pour quand même communiquer avec une clientèle qui est difficile à rejoindre au niveau clinique. Puis là, on pense anxiété sociale, trop de panique avec agoraphobie. Donc, le web nous a permis d'aller rejoindre une bonne portion de ces gens-là. Ça nous parle du aussi potentiel de ce type de consultation pour en savoir plus sur eux, leur évaluation des services, de leur besoin d'obtenir des renseignements sur leurs perspectives. Les limites, je dirais, un biais de sélection qu'on a de la difficulté encore à estimer. Et parce qu'on parle d'accès à l'Internet, mais aussi peut-être que quelqu'un qui a au-dessus de 65 ans puis qui voit 200 questions, il y a peut-être comme une attaque d'angine ou autre, ou pulmonaire, ou de panique. On a peut-être induit des problèmes d'anxiété. Alors, et la difficulté à estimer la convivialité du questionnaire dans cette démarche où on n'est pas présent, donc il faut prévoir d'autres moments pour le faire. Okay, so I was saying that it was a very good study, and we have fantastic results, but it shows that we have questions about the representativity of our sample. Even if we can reach that clinical population that is difficult to reach, we have some limitations on the biases that we're trying to estimate, but were not clearly defined at the moment for us. Maintenant, je vais vous présenter. Oui. Moi, ce que je vous propose, ce serait de laisser Mariko présenter, parce que là, on va être un petit peu juste. À moins que ce soit une clarification ou un point très rapide.
Je voulais savoir si en termes de coût, ça avait eu un impact ou si cette étude avait été faite par des moyens plus traditionnels. Est-ce que vous avez, par rapport à vos études, vous avez considéré qu'il y avait une diminution aussi des coûts?
Ah, c'est clair que, écoute, sans qu'on ait fait tout le décompte, moi je me souviens seulement de l'étude qu'on a menée avec les groupes de traitement, faire les groupes de discussion après chacune, rejoindre les gens qui ne se présentent pas. On a essayé de faire une relance téléphonique avec tous les gens, ceux que je vous disais là qui ne sont pas présentés au traitement. On a essayé une relance téléphonique, c'était abominable et on a très peu de réponses. Alors en coût, je vous dirais, c'est clair que c'est un choix qui est moins coûteux pour ce type de consultation, sans hésiter. Oui, allez, allez.
Le questionnaire, le 200 questions, c'est le questionnaire que vous avez créé ou ça vient d'un questionnaire déjà?
Il y a des modules qui ont été adaptés de questionnaires parce qu'il fallait devoir identifier leurs problèmes. On voulait savoir à qui on avait affaire sur le niveau clinique, l'utilisation des services. Est-ce que toi, tu en parles dans ta présentation?
Non.
Non? OK. Alors,
questionnaire, c'était la
même pierre? Non. Peut-être tu peux répondre. Oui.
En fait, il y avait plusieurs sections, mais une des sections portait sur les symptômes des personnes. Donc, on s'inspirait du skill pour formuler les questions. Pour les autres sections, en fait, ça a été inspiré de ce qui avait déjà été fait par l'équipe de Michel Perrault. Puis, sinon, on a trouver une manière de faire ça.